不满阿迪。Le maire de Westerridge. Chapitre 13. La maisonnette que, selon leur plan, Henchard loua au nom de Miss Thompson pour sa femme Suzanne, était située dans la partie élevée occidentale de la ville, près des remparts et de l'avenue qui les bordait. Le soleil du soir paraissait au cours de cet automne plus doré dans ce coin-là que dans tout autre, et quand les heures s'avançaient, les rayons qu'il lançait sous les bouquets de sycomores baignaient le plancher de la petite maison au volet vert d'un éclat radieux dont l'écran de feuillage protégeait le haut des pièces. Du salon, on pouvait, entre les troncs des arbres, voir par-dessus la promenade les tumulus et les forts de terre dressés sur les plateaux lointains, et cette vue donnait à la maison le charme nuancé de mélancolie que confère toujours le spectacle d'un passé défunt. Dès que la mère et la fille furent correctement installées, avec une bonne attablée blanc et tout le bien-être désirable, Henchard leur fit une visite et se laissa inviter à prendre le thé. Pendant toute la visite, le ton général de la conversation entretint Elisabeth dans ses illusions, et cette petite supercherie parut amuser Henchard, tandis qu'elle causait à sa femme un certain malaise. Le maire renouvela de façon régulière et avec une volonté arrêtée ses visites, comme s'il s'était décidé avec une sorte de froide loyauté à accorder toutes les réparations légitimes à la première des femmes qu'il eût blessée au détriment de la seconde et de ses propres sentiments. Un jour, la jeune fille était sortie quand Henchard arriva. « Voilà pour moi, » fit-il sèchement, « une excellente occasion de te prier de fixer le jour de notre bonheur, Suzanne. » La pauvre femme eut un pâle sourire. Elle ne goûtait guère les railleries sur une situation que lui faisait seule accepter le souci de la réputation d'Elisabeth. Elle les goûtait si peu même que l'on eût pu s'étonner de la voir complice d'une supercherie de ce genre, quand elle aurait pu raconter bravement toute l'histoire à sa fille. Mais la chair est faible, et l'on eut plus tard l'explication de sa conduite. « Oh, Michel, » fit-elle, « j'ai peur que tout ceci ne te prenne du temps et ne te donne bien de la peine. » Je n'en demandais pas tant. » Elle le regardait, contemplait les vêtements qui donnaient au maire une mine importante et le mobilier qu'il avait acheté pour la pièce, mobilier trop riche et trop somptueux à son gré. « Mais non, pas du tout, » protesta Henchard, avec une cordialité brusque. « Ceci n'est qu'une chaumière et ne me coûte presque rien. Quant à mon temps... » Son visage coloré brillait de satisfaction. « J'ai maintenant un homme admirable pour surveiller mes affaires, un homme dont je n'avais jamais pu trouver le pareil jusqu'ici. » Je pourrais bientôt lui confier toute la besogne, et j'aurai plus de temps à moi que je n'en ai eu depuis 20 ans. » Les visites d'Henchard se firent si fréquentes et si régulières que le bruit en courut, pour faire bientôt l'objet des commentaires de la ville. On disait que l'impérieux et dominateur maire de Casterbridge avait été séduit et dompté par Mrs. Newson, la douce veuve. Sa hautaine et notoire indifférence à la société féminine, son mépris silencieux pour la conversation des femmes donnait un certain piquant à une affaire qui eût été, autrement, assez dépourvue de romanesque. On ne s'expliquait guère le choix d'une pauvre et frêle femme qu'en le supposant dicté par des considérations de famille, où le sentiment n'avait aucune part. On savait, en effet, qu'il y avait un lien quelconque entre ces deux êtres. Mrs. Henchard était si pâle que les gamins de la ville l'appelaient le fantôme. Quelquefois, en passant avec elle sur les allées, comme on nommait les avenues des remparts, Henchard avait saisi cette épithète. Son visage assombri prenait une expression de violence meurtrière qui aurait pu terrifier les bavards, mais il ne disait rien. Avec une volonté opiniâtre et obstinée, qui faisait honneur à sa conscience, il poussait les préparatifs de son union, ou plutôt de sa réunion, avec cette pâle créature. Nul n'aurait jugé, à le voir, dans sa grande maison froide, activer les travailleurs qu'il ne fût stimulé par aucune ardeur amoureuse ou aucune impulsion romanesque. Seul pourtant, trois fermes résolutions dirigeaient sa conduite. Il voulait réparer ses torts envers la femme qu'il avait outragée, donner à Elisabeth un foyer chaud sous son œil paternel, et trouver enfin son propre châtiment dans la douleur des épines que ses actes réparatoires enfonçaient dans sa chair. Il avait conscience, pour commencer, d'une certaine diminution de l'estime publique à son égard, comme premier résultat d'une union aussi humble. Suzanne Henchard montait pour la première fois de sa vie en voiture, lorsqu'un simple coupé vint, le jour du mariage, la chercher à sa porte pour l'emmener à l'église avec Elizabeth Jane. C'était une matinée de novembre, sans vent. Une pluie chaude flottait comme une poudre impalpable et s'attachait en gouttelettes fines aux poils des chapeaux et des vêtements. Il y avait peu de gens aux portes de l'église, mais on s'écrasait à l'intérieur. L'Écossais, qui servait de garçon d'honneur, était, avec les mariés, le seul à connaître le véritable état des choses. Mais il était trop inexpérimenté, trop rêveur, trop formaliste aussi, et trop pénétré du côté sérieux d'une telle union pour en concevoir nettement le côté dramatique. Il eût fallu pour cela le génie particulier de Christophe Coney, de Salomon Longways, de Busford et de leurs amis. Mais ces messieurs ignoraient le fin mot de l'affaire, ce qui ne les empêcha pas, vers la fin de la cérémonie, de se grouper sur le trottoir, tout près de l'église, pour discuter le sujet selon leur propre lumière. « Voilà 45 ans que je suis établi dans la ville, » disait Coney. « Mais le diable m'emporte si j'ai jamais vu homme attendre si longtemps pour faire un si piètre choix. Après cela, il y a des chances même pour toi, Nance Mockridge. » Ce sarcasme visait une femme qui se tenait debout près de lui, la même qui avait proclamé la mauvaise qualité du pain d'Enchard le jour de l'arrivée à Casterbridge d'Elizabeth et de sa mère. « Je veux être damnée si j'épouse jamais un homme comme celui-là ou comme toi, » protesta cette dame. « Pour toi, Christophe, on sait ce que tu vaux, et moins on en dira, mieux cela vaudra. » « Quant à lui, » elle baissa la voix, « on dit que ce n'était qu'un pauvre petit apprenti, élevé par charité. » Je ne voudrais pas le répéter pour rien au monde. Un pauvre petit apprenti qui a commencé la vie sans plus de bien qu'un corbeau. Et maintenant il vaut je ne sais combien par minute, murmura Longways. Et quand on commence à compter le revenu d'un homme par minute, c'est que c'est un homme conséquent. En se retournant, Longways aperçut un large disque tout plissé de rides et reconnut le visage souriant de la grosse femme qui avait réclamé une chanson nouvelle aux trois matelots. « Eh bien, mère Cuxhom, que dites-vous de cela ? » demanda-t-il. « Voilà cette Mrs. Newson, un vrai squelette, qui trouve un second mari pour veiller sur elle, tandis qu'une femme de votre tonnage est encore à en chercher un. »« Oh, merci, un second mari pour me battre ? Ah oui, Cuxhom est parti, et toutes les culottes peuvent bien s'en aller de même. »« Elles s'en iront, avec la bénédiction de Dieu. »« Non, je ne perdrai pas le temps de mes vieilles années à chercher un mari, » reprit Mrs. Cuxhom. « Mais cela ne m'empêche pas, je le parais bien, d'être d'aussi bonne famille que cette femme-là. »« C'est vrai, votre mère était une brave femme, je me souviens bien d'elle. Elle avait reçu un diplôme de la Société d'agriculture pour avoir élevé, sans l'aide du Bureau de bienfaisance, le plus grand nombre d'enfants vigoureux et pour d'autres faits de ce genre. »« C'est cette nombreuse famille-là qui nous a empêchés de nous élever. »« Ah oui, où les cochons sont trop nombreux, la pâtée est maigre. » « Tu te souviens des chansons que ma mère chantait, Christophe ?» demanda Mrs. Cuxhom, dont cette évocation illuminait le visage. « Et de l'excursion que nous avions faite avec elle à Mellstock, chez la vieille dame Ledlow. La sœur du fermier Chaynard, tu t'en souviens ? Nous l'appelions Peau de crapaud, tant son visage était jaune et semé de taches de rousseur. Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens bien, s'esclaffa Christophe Coney. « Oh, moi aussi, car je commençais à être bonne à marier dans ce temps-là. » Moitié fille, moitié femme, comme on pourrait dire. Et te souviens-tu aussi ? Elle tapait du bout des doigts l'épaule de Salomon, tandis que ses yeux brillaient entre les fentes de ses paupières. Te souviens-tu du vin de Xérès, des mouchettes d'argent, et de Jeanne Dumet, qui fut malade en rentrant ? C'est Jack Griggs qui dut la porter dans la boue, et qui la laissa tomber dans la cour de la laiterie de Sweet Apple. Il fallut lui nettoyer sa robe avec de l'herbe. Jamais on n'a vu gâchis pareil. « Ah oui, je m'en souviens. On s'amusait dans ce temps-là, bien sûr. Ah, les lieues que je faisais à pied. Et maintenant, j'ai de la peine à passer par-dessus un sillon. » Le flot des souvenirs fut brusquement interrompu par la sortie des mariés. Henchard jetait sur la foule un regard ambigu, où se lisait tour à tour une satisfaction condescendante et un mépris farouche. « Eh bien, ils ne vont guère ensemble, ces deux-là. Tout abstinent qu'ils s'intitulent, » déclara Nance Mockridge. Et elle regrettera plus d'une fois d'avoir réussi son coup avant d'en avoir fini avec cet homme-là. Il a un air de barbe bleue qui pourrait bien donner du vilain un jour. Mais non, il a bon air. Il y a des gens qui veulent du beurre pour leur pain blanc. Si j'avais à choisir dans tout le monde, je ne chercherais pas un autre mari. une pauvre femme timide comme cela, qui avait à peine une paire de camisoles ou de peignoirs à se mettre sur le dos. C'est un présent du ciel pour elle qu'un homme pareil. » Le petit coupé disparut dans la brume et les badauds se dispersèrent. « On ne sait plus comment regarder les choses de nos jours, » philosophait Salomon Longways. « Hier, voilà cet homme qui tombe mort à quelques lieues d'ici. Avec une affaire pareille et un temps pourri comme cela, ce n'est guère la peine d'entreprendre un travail sérieux aujourd'hui. Je me sens bien là de n'avoir bu depuis une quinzaine que de la petite bière à 9 pence, et je vais aller me réchauffer au matelot en passant. Je crois bien que je ferai aussi bien de t'accompagner, Salomon, » fit Christophe. « J'ai la bouche visqueuse comme un colimaçon. »